Bonjour. Vous le savez, c'est une idée qui nous tient à cœur, celle que le vin, bien plus qu'un breuvage, est un fait de société, élément de notre culture et de notre mode de vie. Il n'est pas surprenant de le voir ainsi imprégné des thèmes qui parcourent la société. Les questions liées à l'alimentation, bien sûr, l'agriculture industrielle face à l'équilibre des écosystèmes, la soutenabilité des modes de culture et la question climatique. Il n'est pas rare non plus que la géopolitique mondiale ait un impact sur l'économie du vin, comme lorsqu'un ancien président des États-Unis aux cheveux orange brandissait des hausses de taxes sur les vins et spiritueux pour mettre la pression sur ses alliés historiques du vieux continent. Rien d'étonnant donc à voir aussi dans le monde du vin se déployer les combats féministes quand il s'agit par exemple de donner une plus grande visibilité aux femmes à travers l'association Women Do Wine ou quand il s'agit de dénoncer la caricature ouvertement sexiste d'un journal ayant pignon sur rue, comme dans l'affaire Fleur Godard contre Thierry de Sauve, dont le délibéré n'est pas encore rendu à l'heure où nous enregistrons. Rien d'étonnant non plus à ce que les questions de genre trouvent également un écho dans l'univers du vin, à travers notamment des initiatives qui se multiplient, avec un certain succès semble-t-il, de dégustations non mixtes, entendez, réservées aux femmes, ou encore interdites aux hommes cisgenres. Plus encore que l'existence de ce type de proposition, ce sont les réactions épidermiques qu'elles provoquent chez certains commentateurs qui interrogent. Alors qu'en est-il du rapport entre le vin et le genre? Mon approche du vin est-elle influencée par mon sexe? La présence d'hommes, de femmes, d'homo, de trans modifie-t-elle mon expérience d'un atelier de dégustation? Passionnés que nous sommes par ce sujet de la dégustation, nous nous devions de tirer cela au clair. Ce 79e épisode s'intitule « Delphine Aslan, le vin et le genre ». Bienvenue dans la Terre à boire. Et nous sommes en studio avec à ma droite Laurent Delceau. Bonjour Laurent.
Bonjour.
À ma gauche Patrice Defay. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Et Florence Saragoni au bout de la table. Bonjour Florence.
Bonjour.
Alors, et au téléphone, je vais terminer le tour de table comme ça. Bonjour Delphine Aslan.
Bonjour.
Bienvenue dans la Terre à boire.
Ben merci beaucoup, merci de l'invitation.
Ben de rien, écoute, on a suivi évidemment les débats sur ces sujets. Florence a amené cette idée-là d'aborder la question des dégustations en mixité choisie, voilà, pour choisir le terme que tu emploies dans les différentes interviews.
Ouais.
Et c'est l'occasion voilà, d'ajouter un thème un petit peu de société. On alterne un peu dans cette émission avec des sujets très vigneronnes et vignerons et très les pieds dans la vigne, et puis des sujets qui sont plus qui ont plus trait à voilà peut-être à une dimension sociale, sociétale, culturelle. Et je crois que cette question du genre en est un.
Oui. De toute façon, c'est pas antinomique du tout. Notre manière de faire du vin, de travailler dans le vin, de déguster du vin est quand même traversée par les questions sociétales et sociales. Donc, faut pas fermer les yeux dessus, quoi. C'est un peu le propos.
Avant d'arriver clairement au cœur de ce sujet-là et des dégustations en mixité choisie, dis-nous un peu quel est ton parcours, comment tu es arrivé à ce monde du vin. Je vais dire tout de suite en intro que tu es donc la fondatrice d'une association qui se décline aussi sur Instagram et divers réseaux sociaux qui s'appelle Œnologuin, un mot qui fait déjà parler de lui avec une dimension perçue par certains comme un peu provocatrice, on va en parler juste après. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, au monde du vin? À quel moment tu t'es dit « j'ai envie d'évoluer dans ce métier » Est-ce que tu viens déjà de cet univers familialement?
Alors, pas du tout. Tellement pas que mon père ne boit pas une goutte d'alcool, enfin, voilà. Et c'était pas du tout un milieu que je connaissais. Et puis moi, je faisais autre chose. Il y a 10 ans, j'étais éditrice. Bon, après, j'étais éditrice dans une maison qui éditait des livres de cuisine, et puis j'étais jeune salariée, alors je commençais à avoir quand même un salaire régulier et tout ça, ce qui m'a amenée à m'intéresser à la cuisine. Moi, je suis entrée dans le vin par plutôt les restaurants, etc., où j'ai pu, pour la première fois, goûter des choses que j'ai trouvées exceptionnelles. Je ne sais pas, le mot est peut-être fort parce que je n'avais pas le budget pour les grandes bouteilles, mais j'ai trouvé des choses que je n'avais jamais goûtées dans les soirées entre amis et tout ça. Et ça m'a donné le goût du vin et m'y intéresser, en tout cas. C'est comme ça que je suis arrivée, là. Voilà.
Et donc, tu as eu envie d'être caviste, sommelière parce que là, aujourd'hui, tu animes des ateliers.
Ouais,
de dégustation.
Je suis pas venue à en faire mon métier tout de suite comme ça, mais il se trouve que je me suis retrouvée quelques années plus tard à me demander ce que j'allais faire, et là je me suis dit bah tiens, je vais essayer d'aller au bout de cette nouvelle passion et d'en comprendre les enjeux et en tout cas d'être plus renseignée. Donc je me suis inscrite en formation pendant un an, ce qui m'a un petit peu permis de faire en tout cas une première introduction quoi à tout ce qu'il fallait savoir. Et c'était une formation qui était censée faire de moi une caviste, mais en cave j'ai compris assez rapidement que j'allais m'ennuyer parce que c'était pas pour moi. Et donc j'étais comme par ailleurs je faisais de la restauration, j'ai plutôt œuvré en restauration où là j'ai fait la sommelière si vous voulez pendant quelques années. Et puis un peu plus tard, j'ai ouvert un bar à vin. Mais ça, mon bar à vin, je l'ai eu en 2019. Enfin, c'est tout récent, quoi. Donc ça, c'est un peu comme ça que ça s'est fait professionnellement. Et puis mon bar à vin, il se trouve qu'il a fermé avec le Covid, et puis que je me suis demandé quoi faire. Et depuis, du coup, je suis inscrite en BTS Vitioeno. Et donc je suis plus proche de la vigne et du chai qu'avant. Donc ça, c'est ce que je fais en ce moment. Mais c'est vrai que les ateliers, je les ai commencés en 2018. Donc je fais parallèlement, finalement. J'en fais pas du tout mon métier. Je fais des ateliers de dégustation en mixité choisie. Donc je reprends mon expression.
Alors on va y venir. Ouais. Florence... Alors, je précise que vous êtes toutes les deux des membres de l'association Women Do Wine, si je ne me trompe pas.
Oui.
Vous ne vous connaissez pas pour autant, hein ?
Non.
Non, pas directement. Florence, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de proposer ce thème et d'inviter Delphine ?
Une constatation, c'est qu'à la boutique, quand on organise des ateliers de dégustation, effectivement, on doit avoir un quota à peu près de 80% d'hommes. Donc les femmes font peu la démarche.
Enfin, c'est pas un quota, hein, vous imposez pas.
Non,
il se
fait que quand on propose une déguste, il y a 80% d'hommes. Chose que je trouvais un petit peu bizarre parce que je m'étais dit que étant une femme animant le truc, peut-être que les femmes seraient plus ouvertes à venir. Et un constat en fait, c'est que quand il y a des femmes, elles osent pas prendre la parole. Elles n'osent pas intervenir et c'est comme si elles avaient peur de donner leur ressenti. Et j'ai organisé d'autres dégustations où j'en parlais aux copines. Et vu qu'à chaque fois, c'est jamais plus de 8, le quota était à 8 copines, c'est facile à trouver. Et là, j'ai vu qu'il y avait une réelle différence hein, quand c'est une dégustation où il n'y a que des filles, que des nanas. Ça se passe différemment. La parole est beaucoup plus libre, beaucoup plus ouverte, et elle s'exprime. Donc, une même femme que vous allez mettre dans un groupe mélangé avec des hommes, ou que vous allez mettre dans un groupe où il n'y a que des femmes, s'exprimera beaucoup plus facilement dans le groupe où il n'y aura que des femmes. C'est une constatation tout simple.
Delphine, comment on peut expliquer ça ? Comment toi tu expliquerais ça ? C'est le fameux phénomène du mansplaining, l'homme qui ne peut pas s'empêcher d'expliquer à la femme et à se sentir. Dans une relation de paternalisme, même à son corps défendant, presque.
Force est de constater que même quand ils ne le font pas, ça libère pas pour autant la parole des femmes, ou en tout cas elles se sentent pas plus légitimes. Enfin, je veux dire moi je remets pas toute la faute sur l'attitude des hommes. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup d'hommes qui mansplainent le vin et qui prennent beaucoup de place et qui vont d'ailleurs. J'en discutais avec d'autres personnes. Hein. Il y a des hommes qui vont dans les ateliers pour montrer finalement tout leur savoir, toute l'étendue de ce qu'ils ont déjà goûté, etc. Enfin, il y a beaucoup d'égo qui.
J'ai cru que tu allais dire qu'ils vont dans les ateliers pour pécho, mais.
Et
à
peut-être
la limite, ça,
aussi,
on leur pardonne.
Et peut-être ouais. aussi. Bah, ça peut être relou.
Oui,
très clairement.
En effet.
On leur pardonne, mais.
T'as raison. Je retire ce que j'ai dit. C'est pas le lieu pour ça.
Bah, c'est ça. Si les personnes concernées sont d'accord, très bien, mais c'est pas forcément le cas. Mais donc, même quand finalement, je pense qu'ils prennent pas tant la place ou n'ont pas l'impression de la prendre ou n'expliquent pas à leurs camarades qui sont à côté comment se fait le vin et qu'est-ce qu'on déguste, etc. Je pense qu'il y a, une grande part de socialisation qui se fait vraiment aux premières heures, quoi, aux premières années de la vie. Et force est de constater que les femmes, on est plutôt socialisées à l'écoute. À ne pas se sentir légitime sauf à avoir fait 10 ans d'études sur un sujet, etc., etc. Et c'est des réserves qu'ont pas les hommes.
Mais puis moi je voulais dire que on m'a dit oui, mais il est très gentil, mais même un homme qui est très gentil, même un homme qui n'a pas forcément de connaissances, donc se retrouve à prendre la parole plus facilement et à prendre du temps de parole des femmes, tout simplement.
Tout à fait. Ah ouais, oui, tout à fait. Ça, c'est un truc qu'on m'a dit aussi, ouais.
C'est quelque chose qu'on entend souvent sur les recrutements également, des femmes qui se sentent moins facilement légitimes sur des choses qu'elles n'ont pas faites, alors qu'un homme va facilement endosser un rôle et assumer une responsabilité, se présenter comme capable. Voilà, c'est des études sociologiques qui donnent ce genre de pistes. Je me tourne vers les hommes qui sont autour de cette table et également. Patrice, comment tu ressens? Est-ce que tu as pu constater, toi, ce type de... Enfin, voilà, comment tu vois ce débat sur le rapport entre genre et dégustation, tout bêtement?
La question n'est pas facile. Après, je pense que ce qui est expliqué déjà là, c'est qu'il y a deux choses. Il y a l'homme et puis il y a la place sociétale qu'on donne à l'homme. C'est-à-dire, comme tu dis, même un homme gentil va poser problème. Alors, il peut y avoir le cumul, il peut y avoir ce qu'il incarne en tant qu'homme, plus sa personnalité prédatrice, entre guillemets, ou qui prend trop de place. Donc, il y a déjà deux échelles, je pense. Il y a la personne en tant que telle, et puis la chape sociale qui est faite autour de ça. Alors après, c'est un sujet qui est pas simple. Je pense que il faut être un peu effectivement assez décomplexé par rapport à ça. Si on se met dans une posture très moralisante, on va dire entre guillemets, c'est pas bien de faire des choses spéciales pour les femmes. Si on est dans une attitude un peu plus éthique, c'est-à-dire la morale mais appliquée à soi, il n'y a pas de problème, enfin, what's the point, d'avoir des questions, des ateliers de dégustation qu'avec des femmes et puis des lesbiennes et des LGBT et des queers. Ça ne me pose aucun problème. C'est-à-dire, moi, ça ne m'impacte pas du tout, à part une éventuelle image sociétale que j'ai de l'homme. Et puis après, il y a un aspect un peu plus esthétique. C'est celui qu'on essaie, de prendre dans la table à boire, qui est de dire, très bien, si tout le monde passe du bon temps dans ces lieux-là, tant mieux que ça se passe et que ça offre un espace supplémentaire. Là-dedans, encore une fois, on travaille beaucoup, je pense, dans la biodynamie, dans les vins, pour qu'il y ait de la diversité dans les cépages, dans les choses qu'on offre. Offrons de la diversité aussi dans les modes de dégustation et c'est
les modes de découverte.
Plus il y a de la diversité, mieux ça se passe.
Parce que
moi, c'est entre guillemets, si j'avais une posture à avoir, c'est si on m'en demande une, ce serait celle-là. C'est-à-dire, d'un point de vue purement éthique et esthétique, ça me pose aucun problème. C'est juste peut-être la posture morale qui peut être et le surmoi qui peut être impacté et qui a pu générer sans doute les réactions très très épidermiques qu'il y a eu sur ces types de dégustation mixité choisie, quoi.
Comme tu dis, ce qui pose problème, c'est les réactions, parce que les hommes sont pas oubliés, ils sont pas mis à l'écart des dégustations. Il y en a quand même suffisamment où les hommes peuvent participer. Donc pourquoi s'enflammer comme ça, quoi ?
On va revenir effectivement sur les réactions. Laurent, je finis le tour de table. Ton avis sur ce sujet ?
Mon avis, c'est mon expérience personnelle. En ayant un bar à vin, je suis confronté à la mixité dans mon établissement. Et je me rends compte qu'effectivement, il n'est pas rare que les femmes s'effacent, en particulier derrière leur mari, pour choisir un vin. Pour décider quel vin prendre. Bon, c'est quelque chose qui m'irrite profondément, surtout quand on est sur une dégustation au verre, puisque, a priori, le mari... il n'a pas le palais de sa femme. Donc, quand je propose à une femme de goûter, elle peut le faire en toute liberté, choisir quelque chose de différent, sans avoir à se plier. Mais je ressens, assez souvent, et c'est un peu la problématique, cette timidité, peut-être, cette réserve à choisir. Ah, mon mari connaît mieux mes goûts que moi, par exemple. Alors, quand on goûte, j'ai un peu de mal à accepter ce genre de remarques. Bon, ça, c'est le premier point. C'est effectivement cette réserve dans de nombreux cas. Après, j'anime aussi des ateliers dégustation régulièrement. Et là, moi, je ressens beaucoup moins cette réserve et cette timidité que vous décrivez toutes les deux. Je ne sais pas si c'est l'ambiance qui se crée autour de mes ateliers, mais j'ai cette chance d'avoir des gens qui se libèrent, qui se lâchent. Et je n'ai pas l'impression qu'il y ait une prédominance. Hein, ce n'est vraiment pas quelque chose que je ressens. Alors, bon, c'est ma sensibilité d'homme.
Et t'es à combien? T'es à moitié-moitié au niveau des participants?
Ah, c'est très mixte, ouais. Ouais, c'est très très mixte parce que bon, j'ai même des fois où c'est 90% de femmes. J'ai eu des Anglaises qui sont venues pour des week-ends d'enterrement de vie de jeune fille. Donc j'avais, alors là, c'était effectivement le mec gentil, quoi, qui était là, peut-être dans le groupe. Mais c'est très mixte. Je ressens pas du tout ce truc. Mais après, c'est souvent des populations étrangères, hein, puisque moi, je fais la publicité, on va dire, de mes ateliers sur Airbnb. Donc peut-être que c'est le profil de ma clientèle très anglo-saxonne qui est différente. Je ne sais pas si on a cette approche un peu latine. Mais en tout cas, voilà un peu mon ressenti sur les deux aspects de mon activité.
Delphine, ce panel te paraît représentatif? Il y a autant de dégustations et d'attitudes de perception que de situations. Et le deuxième point, c'est est-ce que tu penses qu'il y a une différence comme ça avec le public anglo-saxon et notre vieille société encore empreinte de catholicisme ou de culture judéo-chrétienne?
Bah, ça, je suis pas compétente pour comparer avec les anglo-saxons. Peut-être qu'en effet, c'est un biais qui fait que, du coup, les attitudes par rapport au vin, au genre, sont différents chez les Anglais, etc. J'en sais rien du tout. Mais bon, je pense par contre qu'il y a un biais quand on est un homme à pas forcément le voir quand il y a un problème de répartition de la parole, hein, sans vouloir attaquer qui que ce soit. Mais je pense qu'il y a des lunettes de femmes ou de féministes, en tout cas, qu'on prend à un moment donné dans notre analyse, qui font que c'est des choses qu'on perçoit peut-être un peu plus ou un peu mieux, je ne sais pas. C'est peut-être une piste aussi d'explication. Il y a peut-être aussi ça. Et en tout cas, je rebondis sur ce qui a été dit sur ce qui se passe au restaurant notamment, mais c'est vrai que je pense que le vin a été pris par les hommes comme un attribut de leur virilité, quoi. Et dans le couple, parmi d'autres choses, ça doit être eux qui choisissent ça aussi, finalement. Et c'est eux, même tout incompétents qu'ils soient à connaître le vin, d'ailleurs, parce que ça les arrête pas vraiment pour avoir un avis. Mais ouais, dans les couples hétéros, moi, j'ai beaucoup, beaucoup vu ça. D'une femme qui s'efface, en effet, et qui laisse son mari choisir. Mais je pense que c'est... pas forcément, ça vient pas forcément d'elle. Enfin, je pense que c'est une habitude qui se prend à deux, et ça fait peut-être partie des petites concessions que ces femmes-là font à leur mari de bon bah vas-y, je sais que ça te fait plaisir, je sais que t'aimes ça, et elle les laisse faire, quoi. Alors, je sais pas.
Oui. Delphine, en complément de ce que je disais sur les anglo-saxons, et qui va à l'encontre de ce qu'on est en train de se dire, j'ai nombreux anglo-saxons qui débarquent en couple hétéro, et dont c'est le choix de la femme de venir dans un bar à vin. Parce que le mec, il aime boire de la bière et il connaît rien au vin et il fait plaisir à sa femme pour venir boire du vin et lui, il s'efface justement. Donc on a vraiment, enfin, moi je suis assez hostile à la généralisation. Je pense qu'il y a un petit peu tous les cas de figure et j'y suis confronté au quotidien. Enfin, j'y étais confronté au quotidien en tout cas quand mon établissement pouvait être ouvert.
Mais comme tu dis, Laurent, on l'a tous vécu ça, le petit couple qui arrive et le mari qui dit « qu'est-ce qui te ferait plaisir, chérie ?» et la femme qui dit « non mais choisis, tu sais ce que j'aime. »
Ah bah absolument, c'est exactement ce que je disais.
Ça, c'est le truc qui t'énerve. Ah c'est la même chose que quand, en tant que sommelière, j'arrive avec ma carte des vins et qu'on me dit « vous m'appellerez le sommelier ». Celle-là aussi, elle me reste toujours en travers de la gorge. Mais je crois que la femme qui dit « non chérie, tu sais ce que j'aime, vas-y, choisis-toi », c'est le truc qui m'horripile encore plus.
Elle prend le verre dans la tronche direct.
Mais affirme-toi, puisque il te dit « tu choisis ce que t'as, de quoi t'as envie, c'est toi qui choisis. Ben vas-y, prends-la la carte des vins et choisis, elle va pas te mordre. Hein.
Delphine Asselin, c'est ça l'enjeu, c'est redonner confiance aux femmes qui seraient comme ça un peu empêchées, malgré elles, de donner leur avis.
Alors, bon, moi, je m'adresse plutôt à des lesbiennes. Hein, donc
oui, alors, j'allais venir à ce deuxième élément.
Parce que l'espèce de scène qui se joue dans les couples hétéros, puis d'ailleurs, pas tous les couples, j'entends bien, et pas dans tous les pays, et surtout, je pense aussi pas toutes les générations, parce que c'est aussi affaire de génération. Mais enfin, en tout cas, évidemment que non, je suis pas pour généraliser dans l'absolu, pour toujours, et à dire que je parle de tout et tout le monde, mais c'est des cas qu'on a tous et toutes eus, et moi en restauration, et vous aussi, donc c'est des choses que j'ai vues, quoi. Enfin, j'invente rien, mais c'est vrai que je pense qu'il y a une question générationnelle qui est importante, mais du coup, moi... Oui, l'enjeu, en tout cas, sans parler de mes ateliers personnellement, parce que je suis vraiment pas la seule à le faire. Il y a plein d'ateliers non mixtes, femmes, filles, ça dépend comment elles veulent s'appeler, mais il y en a plein qui existent. Et je pense que ouais, le critère numéro un, enfin la raison numéro une, c'est peut-être ouais redonner confiance, donner un petit peu de, le mot est grand, mais d'expertise. À des femmes qui sinon pensent en être totalement dénuées, ou alors juste passer un bon moment, hein, ça peut être ça aussi, et pas se sentir moquée, regardée, pas se sentir nulle, voilà. Alors, parce que c'est aussi ça.
Venons-en aussi effectivement à cette autre dimension, parce que l'association que tu as créée s'appelle Enolo Gwyn, donc il y a une dimension homosexuelle revendiquée. Qu'est-ce que la question de la sexualité, l'homosexualité vient faire dans ce débat en fait ? Au-delà de la question de non mixte, tu vas t'adresser à un public plutôt homosexuel, est-ce que ça rajoute une dimension dans cette... élément de difficulté à prendre la parole en présence d'hommes, qu'est-ce que ça change, ou est-ce que c'est, je vais formuler une critique qui peut être faite et qu'on peut voir sur différents réseaux, un filon supplémentaire, comme tu dis, il y a déjà des ateliers en non-mixité, bon, mais toi ton truc c'est de rajouter en plus la dimension lesbienne, qu'est-ce que tu réponds à cet élément-là, et en quoi ça a du sens pour toi que ce soit des ateliers prioritairement destinés aux lesbiennes?
Oula, alors il y a beaucoup de questions.
Ouais, je te donne l'occasion de répondre justement à ces éléments de critique.
Non, mais alors déjà sur le sens premier de Enolo Gwyn, c'était une création d'espace en fait. C'était parce que je sais pas si tout le monde en a bien conscience, mais déjà des lieux lesbiens en France, je pense qu'il n'y en a même pas 5, hein, doit y en avoir 3, enfin, voilà, 3, 4, bon, d'une part. Et à un moment donné, il faut bien qu'on se rencontre, soit parce qu'on a envie de se faire des amis, soit parce qu'on a envie de se faire plus que des amis, soit parce qu'on a juste envie de moments, des respirations... entre nous, qui nous font du bien, etc. Et donc le but de Enolo Gwyn à la base, c'était ça, c'était de créer un espace qui est plutôt d'ailleurs temporel que spatial, mais bon, pour des personnes, pour passer un bon moment ensemble. Bon. Et en fait, il y avait aussi une deuxième demande qui m'avait été faite à cette époque-là où moi j'étais déjà sortie d'école de caviste, mais bon, voilà. Qui était, on n'y connaît rien, on n'ose pas aller dans les ateliers classiques, il faudrait que tu nous expliques, il faudrait que tu en fasses, voilà. Et puis l'idée était née d'une demande en fait qu'on m'avait faite pour un groupe de dégustation, pour une soirée de dégustation à Marseille. Donc j'ai fait cette soirée de dégustation à Marseille qui s'était très bien passée, donc j'ai réitéré et puis il a bien fallu donner un nom à toute cette histoire, etc. Donc c'est de là qu'est né Enolo Gwyn. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est de créer des moments où on est ensemble et où on se sent bien et où la parole est libérée. Mais non seulement la parole est libérée, mais en plus, comme on sait qu'on est, je mets des gros guillemets, mais entre nous, et qu'on a un référentiel commun, qu'il soit culturel, humoristique, etc., et ben, ça fait naître aussi des moments où, sortant même de l'univers du vin, on peut on a les mêmes blagues, les mêmes références, enfin c'est très bête dit comme ça, mais c'est des moments qui font du bien, quoi, où il y a une ambiance assez sympa. Alors après, sur est-ce que c'est un filon, Bah ça, déjà, ça voudrait dire que je gagne de l'argent ou une réputation particulière, ce qui est franchement pas le cas. C'est même plutôt le contraire, puisque finalement, mon nom finit par être associé à Enologuin. C'est-à-dire que c'est plus du tout quelque chose que je peux... parce que vous tapez sur Google, ça arrive très très vite. C'est plus du tout quelque chose que je peux... Alors, je dirais pas cacher, hein, parce que très franchement, c'est pas quelque chose que je cache, mais que je peux en tout cas garder pour moi et choisir de révéler au moment opportun, notamment dans ma vie professionnelle. C'est-à-dire que je vais, dans un an, au sortir du BTS Vitiono, je vais être dans le cas où je vais chercher un travail. Je vais pas trop avoir l'occasion de...
Là, tu es tracé, là. Tu as une puce à vie, là.
Voilà, c'est ça. Donc, un filon, ça voudrait dire que j'y gagne, ce qui n'est pas énormément le cas, à part en bonne soirée avec des gens que j'aime beaucoup. Mais sinon, non. Et puis en plus, c'est pas comme si je m'emparais d'un sujet alors que j'ai rien à faire avec la choucroute. C'est-à-dire que je suis lesbienne, je m'adresse à mon public. En plus, jusqu'à cet article dans Libération qui m'a valu d'ailleurs du harcèlement en ligne...
Ouais.
Alors ça aussi on peut en parler, j'y ai pas gagné grand chose si vous voulez.
Ah, mais justement c'est ça qui est intéressant, ouais. Aussi c'est les réactions, parce que ce qui est plus frappant que l'existence des ateliers, donc effectivement on n'avait pas vraiment forcément entendu parler, c'est suite à l'article de Libération un déferlement de réactions qui a été assez violent.
Même jusqu'à Valeurs Actuelles qui fait un article, etc. Enfin bon.
Ça, c'est presque un honneur.
Hein, c'est ce qu'on m'a dit, ouais, que je devrais le mettre à mon tableau ou que je l'encadre, je ne sais pas, mais il paraît. Mais pour nuancer un peu, franchement, j'ai reçu tellement de messages positifs et tellement de jolis messages suite à ça que ça m'a un peu fait passer... forcément, j'ai passé quelques jours pas trop trop bien, honnêtement. Surtout que mon compte Instagram, qui est quand même la base de ma communication, a été suspendu pendant une journée entière, juste après la publication de cet article, sur dénonciation, hein, très clairement. Donc, je pouvais... En fait, je me suis retrouvée avec la situation où je cherche pas du tout à ce qu'on parle... En tout cas, pas de moi-même. Je cherche pas de moi-même à ce qu'on parle de moi dans les médias grand public parce que c'est pas mon public. Ensuite, j'ai un seul article dans Libération qui était très bien d'ailleurs. La journaliste, je la salue, était très très bien et voilà. Et à la seconde où j'ai un article dans un média grand public, mon outil de communication principal qui est Instagram est suspendu. Et je me dis que j'aurais peut-être mieux fait de rester dans mon petit coin et de faire ma petite tambouille parce que voilà, donc tout ça pour répondre à cette question du filon ou de est-ce que j'y gagne des choses, pas des masses, très très ouais. Franchement.
Merci pour cette réponse. Comme on en a l'habitude, on va maintenant parler un peu plus de vin. Y a un vin, notamment, on a l'habitude de demander à l'invité de choisir un vin. C'est le domaine du domaine de l'affût. Ça n'étonnera personne que c'est un vin de vigneronne. Je précise aussi que dans tes ateliers, tu privilégies des vins de vigneronne.
Oui.
Voilà, il y a aussi une part de féminisme actif et militant là derrière. Il s'agit d'un vin d'Isabelle Pangot, du domaine de l'affût.
Tout à fait. Alors oui, dans les ateliers, c'est toujours des vigneronnes, qu'elles soient seules ou en couple ou avec leurs frères, c'est pas grave, mais il faut qu'elles fassent le vin, quoi, si vous voulez, et qu'elles soient à minima en culture bio. Voilà. Et donc c'est le cas d'Isabelle Pangot, chez qui je suis en stage en Sologne viticole.
En ce moment, à l'heure où on se parle.
En ce moment, à l'heure où on se parle, je ne suis pas avec vous en plateau parce que je suis en stage chez Isabelle. Je voulais vous faire déguster ce vin. Alors évidemment, vous avez trouvé le blanc parce que je crois qu'on trouve plus ces rouges. Mais c'est des vins que j'aime beaucoup. Bon, je vais vous laisser peut-être ouvrir la bouteille et puis, et puis on en parle après.
Non content d'avoir ouvert la bouteille, on est servi.
On a déjà mis
et moi j'ai fini mon verre.
Visiblement, il attend qu'on le resserve. Je le reconnais bien là.
Je suis très heureux que tu aies choisi ce vin parce que j'avais eu la chance d'écouter le petit podcast de nos camarades du Bon Grain et l'Ivresse. Sur Isabelle, et que j'avais trouvé qu'elle avait une énergie incroyable.
Excellent épisode, une spontanéité.
C'était vraiment très très intéressant. Donc j'encourage nos auditeurs à écouter cet épisode s'ils veulent en savoir plus sur Isabelle Pango.
Épisode 11.
Et je suis vraiment séduit par
ça
le
va,
vin
Patrice,
également.
Ça va Patrice, c'est bon. N'exagère pas non plus.
Bon, ok, on fait la pub pour
oui,
nos
petits bien sûr, on les adore.
Camarades de Winecaster. C'est naturel quand c'est bien, il faut le dire. Et c'est à la fois le vin, à la fois l'énergie de la vigneronne, et puis l'épisode du podcast, voilà. Ouais. Moi, j'ai fini mon diatribe.
Pour les infos précises, hein, faut me demander. Non, je déconne.
Excuse-moi,
le mansplainer a pris la parole.
Plaisante, non, donc on trouve, merci au comptoir Bollois. Donc effectivement, il n'y a plus de vin rouge. Il reste encore, pour info, 12 bouteilles au comptoir Bollois de la cuvée L'Instinctif, donc en 2019, qu'on est en train de boire.
C'est un blanc et c'est très
14
bon.
euros, c'est excellent. C'est un mélange Sauvignon-Chardonnay. J'ai très.
Ça se trouve c'est où le domaine de l'affût?
En Trophée Touraine.
On est en Sologne, alors qui fait partie de la Touraine. Et tu me corriges, Delphine, mais c'est 14 hectares qui ont été repris il n'y a pas très très longtemps, il y a deux ans. La cuvée s'appelle L'Instinctive et il y a un petit électrocardiogramme sur l'étiquette. Et Isabelle l'explique bien dans l'autre podcast parce que elle n'avait pas beaucoup de connaissances à ce moment-là. Et donc elle a fait beaucoup à l'instinct et à l'équilibre, cette cuvée-là. Elle était issue d'une famille plutôt qui était dans les forêts, et c'est en goûtant l'influence du bois sur les vins qu'elle s'est pris de passion pour les vins et qu'elle a entre guillemets basculé côté vigneron et vigneronne. Et donc je crois qu'on est à 70% de Sauvignon, 30% de Chardonnay, me semble-t-il, sur cette cuvée. C'est excellent. C'est excellent parce qu'on, moi j'ai, en tout cas au nez, j'ai senti le Sauvignon, on le sent, mais qu'il est vite enrichi par autre chose. Donc on sent son petit côté assez végétal en premier nez, mais ça s'arrête avant d'aller vers le pipi-tcha, hein, ce qui peut être l'évolution négative du nez du Sauvignon. Et on sent tout de suite vachement, vachement d'opulence. Donc c'est en plus c'est excessivement gourmand. Donc je trouve que le Sauvignon apporte la droiture, le côté squelettique et le terroir, et le Chardonnay apporte beaucoup de richesse, beaucoup de rondeur, beaucoup de gourmandise. Enfin voilà, c'est excellent. Et donc 14 euros, ça vaut le coup.
C'est pareil, vraiment l'attaque sur les agrumes, c'est très frais, et puis après il y a la mâche chardonnay qui donne de la matière, et ni l'un ni l'autre sont surexprimés, en fait les deux, ça fait un très joli mariage, et surtout c'est la longueur en bouche qui est vraiment très jolie, ça dure et c'est très agréable.
Delphine, alors tu dégustes pas en même temps, mais je crois que c'est un vin que tu connais bien. Qu'est-ce que tu dirais pour... Est-ce que tu le présentes dans tes ateliers?
Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a très peu de vins au domaine. Alors du coup, je ne peux pas vraiment repartir avec plein de cartons. Mais non, juste pour revenir sur Isabelle, c'est vrai que la cuvée s'appelle L'Instinctive parce que aussi elle découvrait le domaine, elle venait de l'acheter et qu'il y avait en effet beaucoup de choses à tester, à voir, etc. D'ailleurs, elle n'est pas fan de Sauvignon à la base, Isabelle, et elle
mais
se retrouve avec
plus,
un
moi
domaine.
Non plus, ouais.
Et moi non plus. Mais elle se retrouve avec un domaine à majorité de Sauvignon, et du coup, il y a aussi ça qui joue sur la recherche de maturité et d'essayer de pas faire les Sauvignons un peu caricaturaux. Ou en tout cas avec les défauts du Sauvignon, donc je trouve que c'est assez réussi. Et puis sur Isabelle elle-même, elle est instinctive, mais c'était pas par un défaut de connaissance puisqu'elle est elle était quand même œnologue déjà avant. Juste c'était la petite précision. Elle a été œnologue chez les autres avant d'avoir son domaine. Voilà. Et je trouve qu'on ressent d'ailleurs cette maîtrise, même si elle y est allée à l'instinct.
L'instinctive était une façon. Est-ce que c'était une façon féminine d'avancer masquée et de pas dire j'y connais bien mon sujet. Non, j'y vais à l'instinct. Ouais, je fais un peu l'espiègle, mais c'est marrant de dire. Je savais pas qu'elle était œnologue en l'occurrence, mais c'est vrai que tel que on l'a décrit, l'instinctive, je me suis dit, bah voilà, c'est logique d'avoir quelqu'un qui découvre. Après, c'est pas tout à fait le même métier d'être œnologue et de faire concrètement de conduire la vigne et de faire le vin.
Non, bah déjà c'est pas le même métier. Puis en plus, tu peux avoir le bagage que tu veux. Je pense que quand tu débarques sur 14 hectares et qu'ils sont à toi et qu'il faut que tu vinifies toute seule et que tu te poses toutes les questions qu'il faut se poser dans une installation, d'ailleurs c'est encore le cas, bah forcément tu tâtonnes et tu vas aussi un peu comme tu le sens. Ton Sauvignon, enfin je sais pas, je pense que j'imagine pas, mais la première année, ton Sauvignon, quand tu l'as jamais vinifié, ben, faut savoir comment le prendre, à quel moment le vendanger, etc. Enfin, faut s'adapter à son terroir. C'est un défi. Hein. Ouais.
Je sais pas si elle a été instinctive, mais en tout cas, son intuition a été bonne.
Je trouve aussi.
Et après, ça envoie quand même du bois, hein, parce que, enfin, ça envoie du bois. C'est quand même très riche. On est à 14,5. Ouais. On le sent pas trop parce qu'il y a beaucoup de fraîcheur, mais c'est voilà, on est sur un Sauvignon riche, on va dire ça comme ça.
Riche et assez ample et assez la longueur en bouche.
Je pense qu'elle est allée chercher les maturités assez loin. 2019, c'était un millésime assez chaud aussi, donc ceci explique cela, mais c'est très joli vin.
Et d'ailleurs, le 2020 est assez différent. Je vous invite du coup à quand il sera disponible à regoûter. Mais ouais, je trouve que les deux années se ressemblent pas du tout. Bon, il y a toujours la trame qui est là et voilà, mais c'est intéressant de goûter les deux, vraiment. Il y a une maturité qui est vraiment différente. Voilà.
Et c'est quoi le stage que tu fais là-bas du coup? C'est un stage
Moi, je suis en stage pour mon BTS Viti Eno.
D'accord.
Et du coup, je suis là à peu près une semaine par mois, à peu près. Peut-être un peu plus en ce moment qu'à d'autres moments.
Donc, tu t'adaptes aux actualités de la vigne. C'était la taille. Maintenant.
On est bourgeonne.
Vous êtes bourgeonne.
Voilà. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, et puis tout le reste, parce que là, il n'y a pas que les travaux de la vigne, mais grosso modo, c'est ça. Mais d'ailleurs, la taille, les bourgeonnages, tout ça, c'est ça aussi, c'est beaucoup, beaucoup de questions. Et je sais pas si vous avez eu déjà la chance de faire une petite formation, de pratiquer, mais moi je découvre à quel point c'est compliqué en fait. Vraiment, je pense qu'il y a 3 ans, vous me posiez la question, j'en avais aucune idée, mais c'est extrêmement compliqué d'avoir à chaque cep, il faut se reposer des questions, quoi. Donc c'est compliqué, mais c'est intéressant, je veux dire, c'est intellectuellement intéressant.
Oui, enfin, nous, on parle de notre petit studio Tour d'Ivoire. Enfin, moi, je ne connais pas grand-chose au vin, à part le fait de l'apprécier. Mais chaque fois qu'on plonge dans un domaine dans le vin, c'est un puits sans fond. Que ce soit le matériel végétal, que ce soit la vinification, que ce soit le climat, que ce soit...
C'est la
convergence de tout. Après, fondamentalement, c'est ça qui est intéressant, en tout cas dans les vins...
C'est ça qui vient, on en a encore pour 20 ans de podcast.
Oui, c'est vraiment un métier d'artisan, c'est-à-dire que ce n'est qu'en pratique, c'est pas la peine. Enfin, il faut absolument faire le BTS, faire toutes les formations qu'on veut, mais c'est entre guillemets qu'en marchant qu'on devient, non pas forgeron, mais.
Marcheur.
Vigneron.
Tu veux devenir marcheur.
Marcheur.
On a compris.
Alors, notre habitude, c'est d'avoir 2 vins. Donc là, comme on a du mal à tenir des vrais conducteurs, on va suivre le deuxième vin, va suivre le premier vin. Tu peux rester avec nous, Delphine. C'est Florence qui a choisi. C'est Florence qui a choisi le vin d'une autre vigneronne. Florence.
Alors, moi, j'ai choisi Domaine La Passerette des Vignes. Donc, c'est un vin de Céline Robergeau-Sianchi. J'ai connu ce vin grâce à Chloé Bayon, dont on a déjà parlé, qui fait le Manoir du Capucin. C'est elle qui me l'a conseillé. Mmh. Donc, on en travaille deux, nous, à la boutique. C'est son Bourgogne Rouge en Pinot Noir, assez classique. Et on a une deuxième cuvée, la cuvée Macombini à Martine, où on est sur du Gamay. pour la petite histoire, elle arrive en Bourgogne en 96. Elle crée le domaine en 2009, mais elle sort vraiment des vins en 2012. Ça s'appelle Passerette parce que ça vient du latin passere, et qui veut dire paître, parce qu'elle a également un élevage au domaine avec donc 11 hectares de prés. Elle a commencé avec 3 hectares et demi de vignes, donc c'est assez petit. Elle a commercialisé qu'en 2014 et aujourd'hui qu'elle s'est un peu agrandie, elle a 5 hectares 8 de vignes et 16 hectares de prés. Voilà pour le petit truc. Ce que j'aime, c'est que sur ce Macomunia Martine, on est sur un gamay. Et on a des jolies notes épicées. C'est très fin, c'est très délicat, c'est très aérien. Ça, c'est le vin de copain assuré. Hein. Tu sors ça avec un petit peu de cochonaille, t'es super bien. C'est très soyeux en bouche et comme on dit, c'est très goulayant et j'aime beaucoup comment ça goûte.
Tu connais ce domaine, Delphine ?
Pas du tout, mais c'est noté du coup.
Alors, je confirme, c'est un gamay, hein, je crois que tu l'as dit. C'est vraiment croquant, on dit, non ? Mm-hmm. Ça s'adapte. En tout cas, c'est pas surmûr, c'est
C'est hyper très différent de ce qu'on a pu goûter chez CEI peu de temps auparavant.
À l'émission précédente.
Ah oui, ouais. Oui, là, c'est clair, on passe complètement de l'autre côté.
À l'autre bout du spectre.
On l'a pas fait tout à fait dans le bon sens, s'il devait y avoir un sens. Mais c'est chouette. Moi, au début, j'avais beaucoup de fruits. Et puis là, j'ai des notes beaucoup plus fumées, bizarrement.
Un peu fumées, un peu épicées. Il y a de la cannelle, il y a de la muscade, des épices douces.
Et c'est très plaisant.
On trouve ça facilement à Paris ?
Non, pas trop chez nous. Ça coûte 13 euros la bouteille.
Donc, à la BC du vin, on le trouve ?
À la boutique, oui, 13 euros la bouteille.
Patrice, ton avis sur ce vin ?
Oui, très bien. Enfin, il y a les marqueurs du Beaujolais en termes de gourmandise, etc. Mais aussi des marqueurs plus bourguignons. Donc, je trouve qu'il est vraiment, il exprime bien sa localisation finalement. Parce qu'on est à Mâcon, on est à la croisée des chemins, hein, avec le Gamay et un peu de finesse bourguignonne.
Entre la Bourgogne et le Beaujolais.
C'est ça. Mais je pense qu'il exprime les deux bons côtés des deux. Le côté gourmand du Beaujolais et puis côté fin et assez harmonieux de ce qu'on aime bien en Bourgogne, quoi.
Delphine,
c'est fait par une vigneronne.
C'est fait par une vigneronne. Mais justement, Delphine, j'avais envie de te poser une question perfide pour terminer. Perfide, je ne sais pas, mais juste, est-ce que tu peux tendre le coup à cette notion et idée, expression de vin féminin, définitivement ? Est-ce que ça a un sens pour toi ou est-ce que tu, comme nous, tu considères que ça n'en a pas ?
Ah non, mais jamais de la vie. Non, ça c'est... Non, mais ce serait... En fait, je trouve que ce concept-là, c'est limite une insulte pour tout le monde. C'est-à-dire que ça voudrait dire... Enfin, c'est associé féminin et délicatesse, douceur et je ne sais pas quoi. Alors, moi, je serais un vigneron homme, je le prendrais mal, très honnêtement. Je comprends pas qu'ils le prennent pas plus mal, d'ailleurs. Et c'est une insulte pour les vigneronnes qui portent des charges lourdes, disent des gros mots et tapent du poing sur la table quand il faut. Enfin, voilà. Donc, ça n'a aucun sens. Et c'est des réflexions vin féminin ou vin de femme, etc., qui sont limitantes, en fait, pour tout le monde, intellectuellement. Parce que ça ne veut rien dire. Parce que ça s'appuie sur des clichés et que c'est très dommage et que je pense qu'on a un vocabulaire qui est quand même assez vaste et assez riche pour trouver d'autres caractéristiques et d'autres mots pour caractériser les vins, quoi. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais...
Bah écoute, c'est une conclusion...
Non, mais ça me rappelle le petit truc rigolo. Je vous propose un vin très féminin de Chantal Lescure, alors que c'est pas vinifié par une femme, même si ça s'appelle Chantal Lescure. c'est pareil.
On est globalement complètement d'accord avec tes conclusions sur cette expression désuète et dénuée de sens. Merci beaucoup Delphine Aslan d'avoir répondu à notre invitation. Pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent te suivre sur Instagram hashtag Oenologuine et aller voir peut-être les articles auxquels on a fait référence. Il y a celui de Libération, il y a également celui mené par Antonin Yomi Aminategui dans No Wine is Innocent un blog qu'il est toujours intéressant de consulter. Merci Delphine, merci Florence, merci Patrice.
Merci,
merci
au revoir.
Au revoir.
Merci.
On se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Terre à Boire. Je profite, comme on est sur un gamay, pour vous dire que la cuvée La Terre à Boire, elle arrive pour de bon. Vous pourrez la boire, la déguster, la commander. Pour savoir tout ça, il va falloir nous suivre sur les réseaux. Voilà, on vous embrasse.
Salut.
À très bientôt.
Au revoir.
Bye bye.
Au revoir.
Bye bye.